Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal, Livin Winga à la présentation.
Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, adoption hier du rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 et le collectif budgétaire 2024 à l'Assemblée nationale. Nous en parlons dans un instant. Au moins 6 villages de Djougou de nouveau sous contrôle des FRDC. Confirmation du porte-parole de l'armée en Ituri. Des contrées jadis occupées par les groupes armés Zaïre et Codeco. Entre-temps, la population a trouvé refuge ailleurs. Nous allons enfin apprendre une technique, l'insémination artificielle des poissons. Josué Mumbuchu, coordonnateur de l'association des pisciculteurs pour le développement au Congo et en Afrique, va nous en parler. Lui qui vient de former les fermiers, pisciculteurs et autres techniciens de la pêche et de l'aquaculture. Vous avez compris, il est notre invité. Encore une fois, bonjour. Le rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 et le collectif budgétaire 2024 vient de passer. Il a été adopté hier mardi à l'Assemblée nationale, ici à Kinshasa, face aux différents détournements de deniers publics et des dépassements budgétaires constatés. La commission a proposé la mise en place d'une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds alloués au programme des 145 territoires. Dans sa présentation de l'économie du rapport général des travaux, le président de l'ECOFIN a précisé que sa commission a attiré son attention particulière sur les secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Un reportage de Michel Kifindangoy.
S'appuyant sur les rapports de la Cour des comptes, la commission ECOFIN déplore d'énormes dépassements des crédits et d'importantes disparités dans leur consommation, mais également l'absence de précisions sur la localisation exacte de la nature des projets financés par ces dépenses. Ida Kitoa, rapporteur de l'ECOFIN.
Le PDL 145 territoires n'a connu qu'un taux d'exécution de 6,96% sur un total de dépenses de 22 786 milliards. Seuls environ 49% ont été exécutés conformément à la loi.
Dénonçant les dépenses de près de 8 milliards de dollars en mode d'urgence, l'ECOFIN condamne la mauvaise gouvernance, le manque d'orthodoxie financière et l'indiscipline budgétaire, ajoute Ida Kitoa.
Cette procédure sert à faciliter le détournement massif de fonds publics, empêchant ainsi l'État une bonne prise en charge de ses citoyens, tout en retardant son développement.
Pour faire face à ces détournements massifs des finances publiques, les députés décident de diligenter une enquête afin de démasquer tous les détourneurs et récupérer les fonds en procédant à la confiscation et à la vente des biens des coupables.
Parlant justement du projet de développement des 145 territoires, le vice-premier ministre, ministre du Plan, affiche son optimisme. C'est un projet très sérieux qui ira jusqu'au bout, vient d'assurer Guilain Nyembo. Il s'est exprimé à Lubumbashi au cours de la conférence de presse en marge du forum sur le climat des affaires. On écoute le vice-premier ministre Guilain Nyembo. Depuis Lubumbashi, il est au micro de Jean Ngandou.
Il y a eu cette question de financement qui s'est posée. Nous avons quand même tenu à démarrer une phase. La dernière partie du financement pour cette phase-là, ça sera fait en 3 tranches. La première tranche a été libérée. Nous attendrons novembre-décembre pour clôturer les soldes pour la première partie. C'est normal que des gens puissent trouver dans certains endroits qu'il n'y a pas de début des travaux ou qu'il y a des travaux qui sont en arrêt, surtout pour le PNUD. Les explications ont été données. Pour certains projets, certaines agences n'ont pas voulu tout simplement démarrer parce que vous savez, dans les il est aussi dangereux de démarrer des travaux sans pour autant les achever, parce que ça entraîne des coûts après. Donc il était question que pour les ressources disposées, il a fallu démarrer avec certains travaux, là où ils étaient sûrs de finir les travaux, et puis après continuer à attendre le financement pour parachever. Mais aussi, il faut noter les difficultés dans certains coins, les désenclavements que nous avons dans notre pays pour certains coins. Donc il y a eu quand même beaucoup de difficultés derrière que les gens n'ont pas toujours mis en avant. C'est un projet que nous ne voulons pas politiser, c'est un projet très sérieux, nous voulons aller jusqu'au bout et passer à la deuxième version de PDL.
Politique, débat autour de la révision ou du changement de la Constitution, les réactions fusent toujours de partout. Nous vous proposons ce matin celle du président du regroupement politique Mouvement du Peuple pour le Progrès Social. Freddy Kita Boukoussou appelle le gouvernement, la classe politique et la société civile à un consensus pour identifier les aspects qui méritent d'être changés dans la Constitution sans toucher aux principes sacro-saints qui fondent notre nation. Au cours d'un point de presse mardi à Kinshasa, le ministre honoraire Freddy Kita Boukoussou a déclaré que le débat sur la révision de la Constitution n'est pas un sujet tabou, mais on ne doit pas toucher au caractère uni et indivisible de notre nation pour éviter son embrasement. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Disons-le clairement, la Constitution n'est pas la Bible, donc elle peut être révisée pour l'adapter aux réalités du moment ou pour tenir compte des préoccupations nouvelles exprimées par les peuples. C'est sur ce point que nous appelons la classe politique dans son ensemble, ainsi que la société civile, à faire preuve d'esprit d'ouverture et être à l'écoute des uns et des autres. Il est indispensable que chaque composante de notre société s'exprime librement, sans insulte, sans polémique, pour identifier les aspects qui méritent d'être changés, sans toucher aux principes sacro-saints qui fondent notre nation. On ne doit pas toucher au caractère uni et indivisible de notre nation. Si tout le monde se met à l'écoute des autres, nous pouvons facilement arriver à un consensus qui préserve l'unité nationale. Que cela n'embrasse pas les pays, ce n'est pas une priorité, mais il est quand même nécessaire de revoir certains articles de notre Constitution. Nulle part, depuis le premier mandat du président Félix Tshisekedi, même là, dans sa bouche, a dit que non, moi, Félix Tshisekedi, je vais m'éterniser au pouvoir. Nulle part.
Notez que ce point de presse a été organisé en présence d'Antoine Gonda Mangalibi, Deo Nkoussou et d'autres cadres et membres du regroupement politique Mouvement du Peuple pour le Progrès Social. Au moins 6 villages de Djougou, de nouveau sous contrôle des FRDC, confirmation du porte-parole de l'armée en Ituri. Selon ce porte-parole, ces contrées étaient jadis occupées par les groupes armés Zaïre et Codeco et les deux parties se battaient pour l'exploitation de l'or. Entre-temps, la population, elle, a fui et a trouvé refuge ailleurs. L'officier militaire ajoute que l'objectif de ces opérations est de démanteler ces milices dans la zone en vue de permettre le retour de toute la population de secteur de Banyari-Kilo. Le point avec Isaac Raymond.
Les FARDC ont repris le contrôle des localités de Galaï, Lodjo, Piripiri, Beba, Plito et Mulandai à plus de 90 km au nord de Bounia dans les territoires de Djougou. C'est après les combats pour déloger les miliciens de Zaïre qui ont attaqué il y a une semaine les éléments de la police en vue de libérer l'un de leurs compagnons arrêté au sous-commissariat de Plito à 7 km de la commune rurale de Mungwalu. Le bilan de ces opérations n'est pas encore connu, déclare le porte-parole des FARDC en Ituri. Le lieutenant Jirungongo précise que certains miliciens ont été neutralisé sans déterminer le nombre. Un cachot souterrain entretenu par la milice Zaïre a été découvert à Mulandai, ajoute la même source. Ces opérations ont permis le retour de plus de 7000 déplacés qui avaient fui notamment à Mungwalu. Des sources militaires déclarent que ces opérations se poursuivent dans la zone pour le contrôle de toute la région minière où les groupes armés Codeco et Zaïre s'affrontaient régulièrement pour l'exploitation de l'or. Signalons que 13 groupements sur 15 du secteur de Banyari-Kilo étaient occupés par les groupes armés locaux. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction Nord Kivu avec ce cri de détresse de l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC. Elle demande au gouvernement congolais de prendre des dispositions nécessaires pour arrêter l'avancée des rebelles du M23 vers Pinga. Le coordonnateur national de cette structure réagit aux menaces qui pèsent de plus en plus sur cette cité stratégique du territoire de Walikale. Selon lui, l'occupation de Pinga par le M23 pourrait accroître la menace sur d'autres provinces voisines du Nord Kivu. Sadiki Mukobia Espoir exprime sa crainte au micro de Bernardin Nyangi.
Lorsqu'il y a les avancées, vous devez quand même comprendre que Walikale et le Carrefour entre la province de Maniema, Tchopo et Ituri. Nous avons la crainte que le rebelle va directement et avancer et conquérir les provinces de la cité. Et à part ça, il y aura aussi la non-assistance de certaines victimes. Parce qu'à l'heure d'où je vous parle, on a déjà enregistré au moins 32 cas de décès. de la part des paisibles citoyens. Vous savez que ce sont des civils qui paient toujours les pots cassés lorsqu'il y a des terres barbaries. Il y a aussi les déplacements massifs. Et comme c'est un coin là très enclavé, il n'y aura pas l'accès pour l'assistance humanitaire parce qu'il n'y a pas de route pour l'accessibilité d'aller atteindre là où le gens se déplace. Nous pouvons demander au gouvernement d'entrer directement à l'offensif pour protéger le civil et l'intégrité territoriale.
Autre actualité, au moins 3 déplacés vivant dans la ville de Bandundu, dont 2 hommes et une femme, sont décédés en l'espace d'une semaine. Le dernier cas est celui enregistré lundi et qui amène le Kwilu à un cumul de plus de 100 décès. Il s'agit, vous vous en doutez, des personnes qui ont fui les atrocités des miliciens Mobondo à Kwamout, au Maïndombe. Pour François Tabuku, le gardien du site d'hébergement de ces déplacés au quartier Malebo, les conditions de vie précaires sont à la base de ces décès. Il lance un SOS aux autorités afin de leur venir en aide. François Tabuku est au micro de Irène Mboma Luzolo.
C'était le lundi, il y avait un papa qui était décédé, il était au pavillon 6, on l'a enterré le mardi, et le même mardi, il y avait aussi un autre monsieur sur l'avenue Boulevard, il était aussi enterré le mardi, et hier, il y avait une autre dame au pavillon 8, maman Rebecca, et c'était le problème de l'appendicite, comme il n'y avait pas de soins, c'était hier aussi qu'on l'a enterré, donc c'est au nombre de 3 au moins. Dans une semaine, il y a 3 décédés, 3 morts, les déplacés. Alors on ne sait pas, jusque là, les gens ne nous visite pas, surtout à manger. Vraiment, les gens souffrent. Si vous passez de là, vous allez voir comment est-ce que les gens sont en train de vivre. Surtout la maladie. Nous n'avons pas de soins. Si vous êtes malade et vous souffrez comme ça, si ça ne tient pas comme la maman là vient de décéder, c'était le cas de l'appendicite, comme il n'y avait pas l'argent, donc vous allez mourir comme ça. Nous totalisons au moins 101 décès. Alors, s'ils étaient chez lui, s'ils étaient dans de bonnes conditions, peut-être ils ne peuvent pas trouver la mort. Mais les conditions qu'ils vivent, vraiment, c'est difficile. Ça nous amène la maladie. Après la maladie, s'il n'y a pas de soins. Ça doit toujours amener quelqu'un à la mort. Vraiment, nous plaidons toujours au gouvernement de venir nous assister.
Les habitants des abords de l'aéroport de Mbujimayi dans la tourmente, la démolition de quelques maisons construites sur l'emprise de cet aéroport du quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba a débuté hier mardi. Ces opérations se sont effectuées sous haute sécurité des éléments de la police nationale congolaise et ceux des forces armées. Des explications avec Stanislas Diumi.
Plus de 50 maisons se trouvant sur l'avenue de Doma au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba à Mbujimayi ont été démolies ce mardi par des tracteurs réquisitionnés par le gouvernement provincial du Kasaï oriental. Cette démolition concerne plus de 800 maisons construites sur les avenues de Doma et Zahir depuis plus de 30 ans. Depuis le début de cette année, les habitants de ces deux avenues ont été sommés de déguerpir pour faciliter la poursuite des travaux des constructions de l'aéroport international de Mbujimayi amorcé en 2022 mais qui ont connu un retard considérable dans leur exécution suite à la lenteur préjudiciable de la libération de parcelles concernées par l'expropriation selon l'autorité urbaine. Au mois d'avril dernier, le gouvernement provincial a attribué dans la périphérie de la ville des lopins de terre aux propriétaires de parcelles pour faciliter leur délocalisation. Il leur a aussi demandé de procéder volontairement à la démolition de leur habitation pour récupérer des matériaux de construction. Mais ces derniers n'ont cessé de compter cette expropriation, justifiant leur position par le non-respect de la valeur marchande de leur parcelle.
Place à présent à la suite de notre série de reportages après le naufrage du MV Merdi le 3 octobre dernier à Goma. Radio Kapi se penche aujourd'hui sur les conditions de navigabilité sur le lac Kivu entre Goma-Bukavu, Bukavu-Goma, Goma-Minova, Minova-Goma, Goma-Idjui, Idjui-Goma, Bukavu-Idjui, Minova-Goma et Idjui-Minova, à en croire des sources portuaires, ces conditions ne sont pas optimales. La quasi-majorité des bateaux ne respectent pas les normes de navigabilité. Ils sont dépourvus d'équipements nécessaires et pour eux-mêmes et pour les passagers. Un reportage encore signé Gabriel Wamenia.
Aux différents ports de la ville de Goma, il n'y a aucun dispositif technique adéquat en matière de secours mis en place ni par les gouvernements provincial et central pour qu'en cas d'une embarcation en détresse, l'équipe de secours s'émeuve rapidement sur les lacs, affirment les sources portuaires sous couvert d'anonymat. Comme cela ne suffit pas, la quasi-majorité des bateaux flottant sur les lacs Kivu ne sont pas régulièrement soumis et échappent au contrôle technique pour vérifier la conformité des navigabilité. C'est ce qui expliquerait la fréquence des pannes techniques intempestives qui surviennent souvent sur plusieurs bateaux pendant la navigation selon les mêmes sources. D'autres bateaux sont dépourvus d'équipements nécessaires et conformes aux lois de navigabilité lacustre. Ce sont notamment des boussoles, des radeaux de survie et de sauvetage, les équipements de surveillance anti-collision et des gilets de sauvetage. Comment alors réagissent les autorités impliquées dans la chaîne de la réglementation du trafic lacustre? Le cas du MV Merdi est éloquent pour illustrer ses défaillances. Notons que toutes nos sollicitations pour avoir la réaction des services impliqués dans la réglementation du trafic lacustre n'ont pas abouti. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Algérie, les propos de Macron sur le Sahara occidental passent mal. La visite d'État qu'effectue le président français Emmanuel Macron au Maroc est suivie de près en Algérie. On estime que Paris a choisi son principal partenaire au Maghreb au détriment des autres pays de la région et le positionnement de Paris sur le dossier du Sahara occidental est très critiqué.
L'invité.
Notre invité est l'ingénieur Josué Mumbuchui, coordonnateur de l'association des pisciculteurs pour le développement au Congo et en Afrique. Il vient d'apprendre aux fermiers, pisciculteurs et techniciens du Service national de développement de pêche et de l'aquaculture, SENADEPA Maniema, la pratique d'insémination artificielle de poissons. Ingénieur Josué Mumbuchui s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur Josué Mumbuchui, bonjour.
Bonjour, madame.
L'insémination artificielle des clairières, alimentation et nutrition des poissons. Il y avait un besoin au Maniema, pourquoi cette formation?
Vraiment, la province de Maniema en général, il y a vraiment un sérieux problème sur la pratique de la pisciculture moderne au niveau des fermiers et au niveau des institutions. C'est une pratique qui n'est pas encore bien maîtrisée et ils n'ont pas encore même des notions sur l'insémination artificielle. C'est comme ça que le besoin s'est senti vraiment à Maniema.
Et de quoi est-ce qu'il a été question durant votre formation?
Nous avons commencé vraiment à ramener d'abord la population et sensibiliser les gens sur la pratique moderne en pisciculture, la construction des étangs modernes et la préparation des aliments, ainsi que dans le calcul des aliments qu'un poisson doit consommer. Nous avons amené les gens à comprendre aussi par mètre carré ou par mètre cube, ils doivent mettre combien de poissons. Vu la demande de toute cette quantité de poissons, nous avons amené les gens maintenant à faire aussi les notions sur l'insémination artificielle et les ramener à produire eux-mêmes leurs poissons.
C'est-à-dire pour qu'un poisson mange, il faut des calculs. Alors, dans des termes très simples, pour un poisson de 1 kg, s'il faut manger, il faut quoi faire?
En réalité, la nutrition des poissons dépend d'une ferme à une autre. Ça dépend de la température où se trouve l'étang. Parce que sur ça, 1 kg de poisson doit manger au moins 1 kg d'aliments, en réalité.
Quel est le bien fondé ou bien l'importance de l'insémination artificielle?
L'insémination artificielle, son importance est d'avoir d'abord les alevins d'une taille homogène, d'avoir aussi une même souche, d'avoir les poissons qui ont la croissance rapide, d'avoir aussi les poissons à grande quantité pour distribuer aux pisciculteurs où les pisciculteurs peuvent résoudre leurs besoins à grande quantité de poissons sur place.
En faisant l'insémination artificielle, je crois que vous utilisez aussi certains produits. Est-ce que ces produits n'ont pas des conséquences sur la santé de la population?
Vraiment, en insémination artificielle, nous n'utilisons pas des produits toxiques. Nous utilisons même l'hypophyse, donc nous prenons les cerveaux de poisson lui-même. On prend ça avec l'eau physiologique, le sérum là. On va fabriquer une hormone où nous allons injecter ça à la femelle pour avoir les œufs. Après les œufs, on va sacrifier les mâles pour avoir la laitance des mâles, le diluer et puis on fait la fécondation, on les met dans la clé d'incubation. Par la suite, il y a l'éclosion. Après l'éclosion, ce sont que les alevins qui n'ont pas de danger, qui n'ont pas de conséquences, qui vont vivre comme tout autre alevin.
L'insémination artificielle demande l'écloserie. La province n'en a pas. Ça sera comment?
En réalité, pour les participants, après avoir reçu cette formation, c'est une révolte pour eux. Je les ai sensibilisés pour leur dire, aujourd'hui, vous avez la l'appui du padril, ce n'allait pas. Mais demain, peut-être, ils ne sont pas là. C'est à vous de vous réunir. Même si, parce que le projet padril a le projet pour installer l'île closerie ici. Alors que je les ai dit, si le padril n'est pas prêt, vous, la population, pouvez vous réunir. Ceux qui ont réussi la formation, vous pouvez mettre vos petits moyens en jeu. Et avec ce que vous avez, nous pouvons ensemble créer une petite unité de production des alevins ici. On a acheté quelques bacs et on a installé là où on a fait la pratique. On peut même installer ça pour avoir ne fût-ce que 30 000 alevins par production.
Comme cette formation est tellement intéressante, qu'est-ce que les autorités provinciales peuvent faire pour aider ces pisciculteurs?
D'abord, pour moi, je vais demander à toutes les autorités de Maniema de pouvoir penser à résoudre les problèmes de l'insécurité alimentaire. Dans le sens, s'il y a l'insécurité physique, il y a aussi l'insécurité alimentaire. Ces autorités pouvaient penser à soutenir les producteurs de Maniema. Dans le sens, des fois, de disposer les terrains, prendre aussi en compte l'achat de quelques matériels où ils pouvaient avoir le temps de s'investir à ces domaines. Pourquoi? Parce que le pays ne peut pas faire baser l'économie avec le minerai. Parce que le minerai, dès que le prix des minerais baisse, le calcul sera en déséquilibre. Donc, les politiciens de Maniema, les autorités compétentes, les investisseurs, vraiment, il faut penser à aider le pisciculteur. Et la pisciculture a beaucoup d'argent. Pour arriver à ces résultats, il faut qu'il y ait des moyens.
Monsieur Josué Mobutu, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebou-Jangwe, à Jude Bilanda, à Debs Vita. Excellente journée à tous.